Cet été, vivez les festivals avec France Inter.
Deux soirées-concerts au printemps de Bourges.
Vive le printemps !
Laurent Goumard et Marion Guilbeault vivons ensemble le grand retour des festivals de l'été.
Avec en direct de Bourges, Sébastien Tellier,
Philippe Catherine,
Catherine Ringer,
Gaël Faye,
Pomme,
Flavien Berger,
l'impératrice,
Bonnie Banane,
Giorgio.
France Inter, en direct du printemps de Bourges.
Vendredi et samedi sur France Inter à partir de 20h.
Parce que la musique donne de la joie, du rythme, des émotions. Parce qu'elle nous ressemble et nous rassemble. Depuis 20 ans, le Crédit Mutuel donne le la à la musique.
Monsieur Vidal est attendu pour le vol Air France à destination d'un week-end découverte en kayak. Parce que le week-end, c'est le moment idéal pour respirer et prendre le large. Et justement, ce week-end, Monsieur Vidal s'est dit qu'une balade sur l'eau était probablement ce qu'il y avait de mieux pour vraiment prendre le large.
Pour les destinations qui comptent pour vous, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'à moins 30% sur vos voyages en France et en Europe avec la carte Week-end Plus d'Air France pour 49€ par an. Rentabilisez dès le premier aller-retour.
Voir conditions sur airfrance.fr.
16h passées de 4 minutes sur Inter, c'est Pop Pop Pop. Bonjour Antoine Decaune.
Bonjour Alexis, je le confirme. Exactement, 16h, 4 minutes et 20 secondes. Alexis de Meyer, vous, on vous retrouve à 17h pour les infos.
Oui, à tout à l'heure.
Pop-popienne, pop-popien, et tous les autres aussi, bonjour. Quand je serai grand, je voudrais bien redevenir petit. Enfin, je dis ça, mais il paraît que ça fait partie du programme, puisqu'on finit comme on a commencé, langé, talqué et nourri à la petite cuillère. Non, mais quand je dis petit, c'est pour retrouver ces émotions premières, si magnifiquement écrites par Timothée de Fombelle et dessinées par Irène Bonassina dans ce livre que j'ai entre les mains, Esther Andersen, c'est le titre, et qui m'oblige à faire un peu d'exercice, puisqu'il est en format 16/9. Ce n'est pas évident de plonger dans l'enfance, sans être gnangnan, neuneu ou bisounours, pour simplement retrouver la hauteur de vue nécessaire à tous les sens du terme pour être juste. Ça demande une grande délicatesse, une légèreté profonde, de laisser au bestiaire l'ironie sèche ou cette espèce de désenchantement qui finit toujours par nous rattraper, un jour ou l'autre, quand nous sommes devenus ce qu'on appelle des adultes, à courir après le sérieux ou à faire semblant de l'être. Oui, il nous faut des livres comme Esther Andersen pour aller prendre l'air, respirer et retrouver des parfums familiers que nous croyons disparus. Bon, je le reconnais, cette intro est passable lyrique et un poil mélancolique, mais c'est mon humeur après lecture. Autant vous la faire partager. Timothée de Fombelle et Irène Bonassina sont les invités de Pop Pop Pop. Et Pop 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 pour ce 24 juin de cette année qui reprend des couleurs d'aquarelle. C'est parti.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Et à mes côtés, celle qui écoute tous les jours mes histoires en suçant son pouce. Bonjour Charline Roux.
Comme une chanson douce, vous voulez dire ?
Évidemment.
Mais bonjour Antoine.
Bonjour. Bonjour Timothée de Fombelle.
Bonjour.
Et bonjour Irène Bonassina.
Bonjour.
Bienvenue dans notre studio. Avec vous, nous allons donc parler d'Esther Andersen, un livre écrit par Timothée et illustré par Irène. Mais avant d'en parler, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué parmi les pop événements de ces dernières 24 heures. Alors, soyez très attentifs. S. Cette info, repérée par le magazine Le Bonbon, qui nous apprend qu'Esther a reçu une voix aux élections régionales de Lyon. Une voix, c'est pas beaucoup, me direz-vous. Sauf qu'Esther est une truie de 300 kilos et elle est bien plus populaire que vous et moi avec son 1,5 million d'abonnés sur les réseaux. Nous connaissions le vote blanc, il existe donc le vote jambon blanc.
Où est-ce ? Cette photo qui a fait le tour du monde, Spider-Man serrant la main du pape, l'image est forte mais la symbolique encore plus. Le Spider-Man en question est un jeune Italien qui fait le tour des hôpitaux pour redonner le sourire aux enfants.
Ou bien S, effet papillon. Les plages australiennes qui le même jour ont été infestées d'araignées. L'histoire ne raconte pas si elles étaient habillées en pape. Alors, laquelle de ces trois informations vous inspire quelque chose ? Irène ?
La première.
La première, vous voulez bien ? Le cochon qui a une voix ?
Oui, c'est ça, Esther.
Moi, je vous suis, Esther présidente. Ça nous va très bien. Une bonne truie à la tête d'une région, ça peut donner quelque chose.
Et Esther, c'est un bon nom de tête de
voilà.
Liste quand il y a autant d'abstention, non?
Très
Esther,
vite, très
oh, oui, bravo. Très bon, okay. Alors, la pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Crawling Kingsnake, qui est encore un animal, c'est le dernier morceau des Black Keys. We'll be right back. Crawling King Snake dans Pop Pop Pop. Cet extrait du dernier album des Black Keys, un album de reprise. Et nous sommes aujourd'hui avec deux invités qui nous replongent en enfance. Mais qui sont-ils? Et quel est leur pouvoir pour nous faire régresser à ce point-là? Réponse avec leur pop portrait. Alors oui, leur pop portrait, bien sûr, c'est leur portrait, mais c'est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, deux invités qui ont décidé de nous emmener en vacances avec un tout petit peu d'avance et c'est vraiment pas pour nous déplaire. Des envies d'évasion qui font presque figure de vocation. D'un côté, l'auteur de La Tour du Monde aux 5 ballons à gaz. Alors, avis aux fans, ne vous ruez pas dans les librairies. C'est une œuvre de jeunesse non publiée mais dont le titre témoignait déjà de quelques bonnes influences et d'un goût certain pour l'aventure. Et rien dans son parcours ne viendra contredire ses aspirations. Enseignant, ah bah si, apprendre les lettres, c'est quand même s'évader. Auteur et metteur en scène de théâtre, La Troupe, c'est une aventure. Puis les romans jeunesse foisonnants, que ce soit Toby Lolness, dont les protagonistes ne mesurent que 2 mm mais vivent dans un arbre-monde, Van Gogh, un diptyque fait d'intrigues et de mystères, ou encore le livre de Perle, Joshua Perle, Tombé dans notre monde, Une nuit d'orage, ou encore Alma, Le vent se lève, autant d'œuvres qui témoignent d'un goût prononcé pour l'ailleurs. Et de voyage et d'évasion, il est aussi question avec Irène Bonassina, dont le trait des plus expressifs est fait pour illustrer des aventures, que ce soit celle de Boucle d'or, comme celle d'une mule en road trip avec le voyage de l'âne, de Mamie Babka et Petit Ours, urcidé en vadrouille sans carte dans nos chemins. Pas étonnant que ces dessins soient exposés en Corée, au Japon, à Bologne, Téhéran, Genève, Alger, Bruxelles. Et en leur compagnie aujourd'hui, allons prendre le grand air.
Mais oui, un petit avant-goût de vacances avant de faire le plein de ces souvenirs qui vous marquent pour toute une vie. Ça vous a marqué, ces souvenirs de vacances quand vous étiez enfant, Timothée, Irène?
Oui, bah pour moi c'est le. En fait, c'est drôle. J'ai écrit un texte avec des souvenirs et 95% c'est sur les deux mois d'été qui revenaient. C'est une sorte de récurrence le rituel de la répétition des étés, le temps qui passe, les grands espaces. Moi c'est ce qui m'a fabriqué vraiment
Le temps qui passe et qui s'arrête aussi d'une certaine manière.
Ouais. Exactement, ouais. Qui s'arrête, mais cette idée de répétition, c'est cette idée, la longueur du temps, quelque chose. Moi, je me souviens que quand j'arrivais le 1er juillet chez moi, revenant de l'école, je n'étais pas capable d'enjamber l'été du regard. Mmh. C'est-à-dire, pour moi, c'était impossible d'aller jusqu'à septembre. Ouais, c'était l'éternité qui commençait.
Pareil pour vous, Irène?
Moi, on partait à la mer. Presque tout le temps au même endroit. Et comme tu dis, il y avait des rituels, on s'attendait un peu à retrouver toujours la même maison, les mêmes plages, les mêmes balades en vélo. Et je crois que je garde le souvenir de ces horizons que je voyais qu'à ce moment-là de l'année. Mmh. Horizons et plus d'autonomie aussi. On nous laissait partir, la fratrie, tous les trois, à la plage, seuls, ce qu'on ne faisait pas du tout le reste de l'année.
À la ville.
Ouais, c'est ça, la vie, les parents lâchaient un peu. C'est vrai que ça, on s'en rend pas compte, mais ça reste après.
Bon, un terreau fertile pour les souvenirs en tous les cas. Timothée de Fombelle, Irène Bonassina, aujourd'hui vous venez nous présenter Esther Andersen, et je le dis tout bas, Esther Andersen. Pourquoi? Oui, mais pourquoi, Charline? Pourquoi?
Parce qu'Esther est un mystère, celui d'un été particulier. Comme tous les étés, le jeune héros se rend chez son oncle, le fantasque Angelo, collectionneur compulsif et roi des New Uber. Des vacances faites de ses petits rituels et de balades en solitaire à vélo. Mais ce qui change cette année-là, c'est que le jeune homme va se perdre et va faire une découverte qui va le transformer à jamais. Un mot de ce tonton gentiment zinzin, terriblement attachant. Qui l'a inspiré, cet Angelo?
Alors je suis incapable, c'est une sorte de collage cubiste de plein de gens.
On le connaît tous, presque.
On le connaît,
ouais.
On le connaît. Il y a peut-être un peu d'une de mes grand-mères qui m'accueillait dans sa petite maison à Noirmoutier. Il doit y avoir un peu d'un oncle qui a tendance à accumuler pas mal de choses dans cette même petite maison. C'est étonnant, mais on le connaît et il fait envie dans son respect de la liberté. Ouais, ouais. T'as parlé tout à l'heure, Irène, de... Enfin, on lâche un tout petit peu l'enfance, les enfants, cet oncle Angelo, c'est le roi de ça, de le laisser libre. Et quand il revient trop tard, il lui dit simplement, c'est encore meilleur quand on réchauffe, quand il fait les pâtes au beurre.
Vous l'avez connu, cet oncle?
Ah ouais. Alors moi, en fait, j'ai mis du temps à le voir, à le dessiner, ce personnage de tous les personnages du livre. Je le faisais au début 3G, un peu trop pantouflard. Je me souviens, je l'ai repris. Ouais. Et tout d'un coup, il y avait quelqu'un de Gallimard qui m'a dit peut-être un peu plus nerveux, un corps un peu plus nerveux, plus sec. Et là, ça a été un déclic. Il est apparu sur ma feuille Et depuis, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il existe vraiment, que je le connais, ce visage avec le grand front, les lunettes, un peu artiste, mais au milieu des grands champs de blé, quoi, complètement solitaire.
Ouais. Il faut regarder ses mains aussi. Il a des très grandes mains quand il raconte, parce qu'il est très solitaire, mais quand il se met à parler, d'ailleurs, on n'est même pas obligé de lire tout ce qu'il dit, parce que il part dans des monologues qui bercent le héros.
Alors nous sommes là avec deux auteurs qui parlent d'un personnage, bien entendu,
imaginaire.
Donc, qui fait des nouilles au beurre. Esther Andersen, c'est une histoire qui commence ici. Dans un train, le jour des vacances d'été. Ça tombe bien, nous ne sommes pas à bord d'un train, sinon je vous aurais proposé des sandwichs triangles, mais la veille de ces fameuses vacances. Soit le moment préféré de l'année des parents pour se débarrasser, pardon, pour le faire découvrir aux enfants les joies de la colonie de vacances, à ces chères têtes blondes. Une manière de s'ouvrir aux autres, comme disent les parents les plus fourbes, hein. Une période teintée de nostalgie pour vous, Timothée? Enfin, je parle pas de colonie de vacances, hein, des vacances.
Enfin, c'est vrai que nous, quand on raconte des histoires, on veut se débarrasser des parents, parce qu'on veut des enfants libres, alors on les fait mourir très vite. Malheureusement, le petit Harry Potter était orphelin, etc. Vraiment, on trouve des solutions. Mais quand on est enfant, c'est un peu ce dont on rêve aussi. Et cette personne qui a moins la responsabilité de l'éducation, que ce soit l'oncle Angelo, les grands-parents ou la colonie de vacances, tout à coup, boum, l'horizon, tu disais ça, Irène, l'horizon s'ouvre.
Et vous, Irène, vous êtes plutôt nostalgique de ces périodes-là ? Ou pas du tout ? Il y a zéro nostalgie, que ce soit dans votre travail ou votre manière d'envisager les choses ?
Je ne sais pas si nostalgie c'est le bon mot, mais plutôt une période un peu sacrée, quoi, l'enfance. Une période à laisser intacte, à respecter. Et donc oui, les souvenirs de vacances en font partie. Au seuil de la nostalgie, on va dire. Au tout début.
Puisqu'on parle de souvenirs, et je m'en voudrais d'être indiscret, mais cette rencontre magique dont il est question dans Esther Andersen, cette première émotion amoureuse au sortir de l'enfance, ça vous a rappelé des souvenirs personnels à tous les deux?
Été 86. Ah. 13 ans, précisément. On ne sait pas très bien quel âge il a exactement.
C'est l'âge.
13 ans, il y a un truc, mais il y a un truc, l'année des 13 ans, peut-être la rencontre, toutes les emmerdes qui commencent. La mort, l'amour, les découvertes de... Parce que c'est quand même le début de la fin. Quoi. C'est le début. C'est la fin.
Mais il est tout jeune, dites pas ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que plus jamais, il y a quelque chose là. Tout à coup, on entre dans le temps des miroirs, par exemple. On commence à se regarder un tout petit peu avant de sortir. Je me souviens ce jour où je me suis recoiffé. Mm-hmm. Alors que et ça, c'est l'été des 13 ans. Ensuite, je vous dirai si non, je vous dis pas le prénom qui correspond. C'était pas Esther.
Irène, je m'en voudrais d'être indiscret.
13 ans aussi, c'est marrant. 13 ans aussi, premiers émois.
Mais t'es d'accord que c'est le caillou, dans la routine du bonheur, un joyeux caillou.
Caillou qui donne du frisson.
Mais rassurez-moi, tous les deux, c'était pas sur la même plage. D'accord.
Ce qui est assez épatant dans le livre, c'est la confrontation entre l'infiniment grand, c'est-à-dire les espaces, le maïs, et l'aspect microscopique parfois des détails et des souvenirs, que ce soit les chips écrasés, l'odeur de banane, la tubeuse à bouchons. Pour l'un comme pour l'autre, est-ce que l'enfance et la confrontation des différentes échelles, c'est une veine intéressante à explorer?
Vas-y.
Je ne sais pas si je rattache ça à l'enfance, mais ça, c'est sûr que ça me fascine, ce rapport d'échelle. Et c'est vrai que c'est présent dans ton écriture aussi, Timothée. Et moi, graphiquement, j'ai adoré exprimer ces grands espaces, d'ailleurs avec un énorme pinceau, où j'essayais que le geste, il y ait un seul geste, donc il fallait un pinceau énorme, et la fragilité de la plume avec ce trait fin comme un cheveu, et ça parle de ça, c'est deux échelles d'outils pour parler de...
Ce qui est très important, c'est de dire que c'est un album qui fait 35 cm de large, et donc quand on ouvre, ça fait presque un mètre linéaire de bonheur.
C'est ce que je disais, c'est un peu d'exercice.
Oui, c'est vrai, mais c'est, ça ne lit pas n'importe quoi, donc c'est un très, très large album, et les originaux qui un jour mais seront absolument inaccessibles dans les ventes aux enchères, les originaux d'Irène sont des splendeurs parce que elle dessine comme ça sur un seul grand carton de 70 cm de large à l'échelle 1 à peu près, hein. Et c'est avoir cette place là, ça permet de perdre le personnage dans la page.
Ouais. Ouais.
C'est de laisser énormément de place au blanc et à l'espace.
Et c'est un format très cinématographique.
Mais tout à fait.
J'imagine agréable à travailler pour vous.
Mais
aussi.
C'était au début, c'était effrayant ce format, parce qu'en fait, je l'ai pas choisi. Ça m'arrive de proposer un format. Là, c'était Gallimard qui le proposait. Et après, je pouvais plus penser autrement que dans. J'ai adoré. Et c'est pour ça que, comme tu dis, après mes originaux, je faisais carrément la double page. S'il y a deux images, je les faisais quand même sur la même feuille de papier pour avoir cet espace devant moi.
Mais ensuite, il faut réduire au maximum. C'est-à-dire, moi, le texte, il y a deux ou trois lignes par page, et ton dessin aussi, la mère peut être là, elle n'est pas dessinée pour autant, à certains moments, de temps en temps, au contraire, il n'y a que elle. Il faut malgré tout choisir, c'est pas parce qu'il y a cet espace qu'il faut le remplir.
Timothée, avec ce livre, vous vouliez creuser le sentiment que vous aviez enfant le 30 juin sur le trottoir en sortant de l'école. Hein, un moment où vous étiez, je vous cite, dans l'incapacité d'imaginer la fin des vacances qui commençaient, ce que vous disiez encore il y a quelques instants. Le hasard veut que nous soyons à la veille des vacances. Qu'est-ce que vous avez à dire aux écoliers qui sont sur ce même trottoir, qui ont le même sentiment et qui nous écoutent avec leur smartphone? Oui, parce que l'époque est un
peu j'allais dire les Walkman, mais...
Non,
c'est fini,
c'est très court, la période des Walkman.
Ouais.
Je pense
ça n'a pas été très long, ouais.
Non, c'est 10, 15 ans, 10 ans.
Ouais.
Tu connais Irène, les Walkman?
Ouais, d'accord.
Je leur dis, justement, débrancher, un bon coup, ennuyez-vous, un bon coup aussi... Et chercher l'horizon, chercher l'endroit où on voit l'horizon. Je pense que c'est un peu un hasard que ce livre tombe à ce moment précis. Là, d'abord de cette période un peu spéciale qu'on a. Il y a eu une histoire de pandémie. Je ne sais pas si vous avez suivi.
Non, ouais,
je ne vois pas.
C'est pour ça que vous portez un masque.
Non, c'est juste pour l'esthétique. Et donc il y a cette tout à coup cette liberté, cette fenêtre qu'on ouvre en grand. Et faut alors je veux pas dire sauter par la fenêtre, mais faut passer par la porte, mais très vite rejoindre l'horizon.
Les mêmes conseils, Irène?
Ouais, j'aime bien ennuyez-vous, je dirais la même chose. Ouais, contemplation, ennui et ralentir. Pour les vacances.
L'ennui, c'est pas ce qu'on éprouve dans cette émission. On parle aujourd'hui de Esther Andersen, de Timothée de Fombelle, et illustré par Irène Bonassina. C'est édité chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman graphique absolument magnifique. Il y a un autre homme idéal qui va ensoleiller notre été, c'est Bertrand Burgala, avec son morceau L'homme idéal, justement.
Le soleil te réchauffe l'essence. Des tentations bronzées te font l'enfer. Moi seul, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal. Mon fendu l'occiput, des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite se rayer. L'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un qui en profite. L'homme idéal.
On me demande mes trucs,
c'est quoi vos trucs,
mon secret,
vos secrets.
En un mot, comment je fais pour être ce que je suis?
Comment vous faites pour être
ce que je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas.
Ah bon?
Eh oui, forcément.
Si vous
je vous laisse cogiter à ça.
Garniture à pizza. Laquelle?
Tous tes amis ont balancé des porcs. J'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps chercher quelqu'un qui mérite. L'homme idéal, c'est moi. Tout de suite, suce ça et toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi. À part toi.
Pop-pop-pop, Antoine Decaune.
Hey Charlene, oh. Et nous parlons aujourd'hui de Esther Andersen, un livre co-signé par Timothée de Fombelle et Irène Bonassina, qui l'a dessiné et c'est édité chez Gallimard Jeunesse, Charline.
Un livre destiné aux enfants, si je ne m'abuse, à partir de 7 ans, mais il ne laisse pas les adultes indifférents. Comme vous pouvez le constater, quelles sont les réactions et critiques que vous redoutez le plus, tous les deux? Ou en d'autres termes, qui sont les lecteurs les plus exigeants, les petits ou les grands?
Ah, les petits, ouais. Ouais, les petits.
Pourquoi?
Ouais, parce qu'ils font pas de politesse.
Oui, il y a pas de filtre.
C'est ouais, ça, c'est ouais. Ça. Et ils posent les questions. Ils sont complètement entiers. Et s'il y a une incohérence ou si à un moment donné ça les a pas complètement convaincus, ils vont le dire. Mm-hmm. Je crois que c'est ça. Ouais.
Ils ont toutes les raisons de lâcher le livre qu'ils ont entre les mains. C'est-à-dire ils ont il y a tellement de choses qui les entourent que ils le feront pas pour pouvoir le raconter dans un dîner en ville. Mmh. Ils le feront pas pour, et donc c'est, ils sont sans pitié, mais ce qui fait que quand ils sont gagnés à un héros ou à un livre, c'est le bonheur total.
Le bonheur, ouais.
Moi j'ai commencé un peu par hasard à écrire pour les jeunes lecteurs. Mmh. Et une fois la rencontre faite, mais pour rien au monde, on peut me toquer à ma porte pour me demander des romans pour adultes, mais quand j'aurai le temps, à la retraite.
Alors justement, ça m'intéresse, tiens, une question très intéressée. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire pour des jeunes lecteurs? Qu'est-ce que ça change pour vous, en tant qu'auteur?
Pour moi, c'est écrire. Ça veut dire simplement ne pas les exclure. Hein. Ça veut dire, en fait, j'écris pour tout le monde, mais il se trouve que... Je me dis, je vérifie que l'enfant de 12 ans, il est toujours avec moi quand je raconte.
Ouais.
Est-ce qu'il est, je l'ai toujours là sur l'épaule, ou est-ce qu'il est parti jouer aux cartes à côté? Donc, c'est simplement une sorte de vigilance qui pousse à une clarté. Clarté au sens de lumière et de transparence, du fait d'être clair, tout simplement. Et qui est, pour moi, la politesse de la littérature, qui est l'essentiel de la littérature.
Et ça, c'est le lecteur d'Alexandre Dumas qui parle.
C'est ça, c'est ça. C'est simplement une situation, Monte Cristo, le pharaon bateau qui arrive dans le port de Marseille, et une histoire hyper simple, il va se marier, sauf qu'on le fout en prison. Moi, j'adore, de toute façon, j'adore qu'on me raconte des histoires, j'en raconte par rebond.
Et vous, Irène, qu'est-ce que ça change de dessiner pour un...
En fait, j'ai toujours dessiné en jeunesse. Je me sens bien là parce que je me demande juste que ce soit sincère. En fait, je ne sais pas si c'est.
Ouais.
Je ne pense pas spécialement que ça c'est pour les enfants, mais je veux que ce soit beau, que ça apporte une impression, une émotion. Et donc, je pense qu'après, ça peut plaire aussi à tout le monde, mais je sais pas, quelque chose que j'ai forcément à l'esprit, c'est surtout faire de la qualité. Alors après, ça a beaucoup de sens pour moi, que cette qualité, elle aille dans les mains des enfants. Ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de sens, peut-être plus que ça aille dans les mains des adultes.
Ma grand-mère, quand elle avait lu mon premier roman, avait dit, mais quel gâchis de donner ça aux enfants.
Et
moi, je lui ai dit, mais c'est fini le temps où on donne les restes aux enfants. Il faut leur donner, mais la pintade farcie au foie gras et aux truffes, il faut leur donner le meilleur.
Et dès leur plus jeune âge.
Mais
c'est drôle ce que vous dites, parce que Suzy Morgenstern, qui est une autre grande autrice jeunesse, passée par ce studio, nous expliquait « J'aime penser que je n'écris pas pour, je crois que j'écris sur moi, sur ma vie. » Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi? Et elle a aussi précisé qu'elle n'aimait pas tous les enfants. Donc je vous épargne la question.
Ça, je lui laisse. C'est notre porte-parole, notre papesse, Suzy. Mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire, on s'agenouille pas à côté de l'enfant pour se mettre soi-disant à sa hauteur. Il est largement au-dessus de nous. Et au contraire, on tend le cou pour pouvoir l'atteindre et le toucher. Donc, oui, moi, je pense que c'est une exigence supplémentaire. C'est sûrement pas quelque chose au rabais. Et pour l'illustration, je trouve que, de toute façon, il n'y a pas d'autres endroits où exprimer dans les livres le dessin. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est l'album jeunesse, c'est le livre d'art d'aujourd'hui. C'est le livre dessiné.
Irène, vous partagez cette exigence ?
Oui, je partage cette exigence. Et puis, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, ce que Suzy a dit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut simplement que ça parte de soi. Et si c'est sincère, après, ça nourrira les jeunes lecteurs. Et pour avoir fait des rencontres dans les classes, les questions que les jeunes lecteurs me posent, je me dis, ouh là là, ils sont allés si loin dans la compréhension de ce que je voulais faire passer. C'est incroyable.
Oui.
Donc voilà.
Timothée de Fontbelle, je rappelle que vous êtes l'auteur de Alma, Priguli 2020, magnifique histoire avec Antoine de Font, l'esclavage à la fin du 18e, raconté du point de vue de deux enfants de 13 ans à destination de lecteurs du même âge, alors que vous, Timothée, vous avez découvert la réalité de cet esclavage quand vous aviez vous-même 13 ans, quand vous viviez en Côte d'Ivoire. C'est une histoire qui vous a hanté pendant longtemps.
Oui, toujours.
Longtemps à
raconter. C'est incroyable, toujours 86. Toujours
les souvenirs, on revient.
Mais la même année, après ce fameux été, là, je pars avec ma famille en Afrique pour habiter deux années en Côte d'Ivoire et on part sur les rives du Ghana, là, pour un voyage familial au milieu de ces deux années. Et ça a été un choc, la rencontre d'abord pratiquement avec l'existence de ces 300, 400 ans d'esclavage et en fait millénaire, évidemment. Donc je me suis juré de raconter ça un jour. Ça a mis 35 ans à venir, et j'ai écrit d'autres choses avant, mais c'était, ouais, c'est des, et Esther Anderson est une respiration au milieu de cette saga, parce que c'est une trilogie, je me lance dans des choses pas très raisonnables. et entre eux, il y a le deuxième volume qui arrivera à l'automne, et quel bonheur de pouvoir arrêter le temps d'un été, en racontant quelque chose de qui n'est que lumière, même s'il y a, j'espère, de la lumière dans le tourbillon, dans l'horreur de ce crime de l'esclavage.
Ce livre allemand que votre éditeur anglo-saxon a refusé de traduire au prétexte que vous n'êtes pas noir vous-même et que vous ne seriez donc pas...
Parce qu'on est à la radio, donc il faut le préciser.
Oui, on précise, vous ne seriez donc pas habilité à écrire sur l'histoire de l'esclavage, c'est une situation extravagante.
Oui, c'est très étonnant. Je sais pas très bien comment réagir à ça, parce que il se trouve que finalement il va être publié par un autre éditeur qui a pas la même idée. Je comprends plein d'aspects des réticences et le besoin d'une parole d'auteur noir ou afrodescendant ou des Caraïbes ou de l'Amérique descendant d'esclaves. Il y en a un besoin immense, mais elle n'empêche pas d'autres voix de s'emparer de ce sujet. Et surtout, quand on raconte il y aura 1500 pages à la fin de cette, ça peut pas être pour parler de ce crime et de la vie d'une petite héroïne, de l'ampleur d'une petite héroïne de 13 ans prise là-dedans, sous tous les aspects de la traite et de l'esclavage. Je pense pas que si on peut atteindre des jeunes lecteurs, ça ait un effet catastrophique.
Et Esther Andersen a des chances d'être publiée au Danemark, où les descendants de Hans Christian Andersen vont vous faire des misères.
Non, je vais même pas essayer.
Bon, Esther Andersen, c'est une magnifique histoire qui donne ce roman graphique d'un charme absolument fou, c'est-à-dire en buvant un cacolac, comme ceux vendus par les cafés, dans cette histoire en 86. C'est édité chez Gallimard.
Gallimard Jeunesse. Ne bougez pas tous les deux, j'en ai pas fini avec vous, Irène Timothée. C'est le moment des Pop News.
Il revient enfin pour faire ses adieux et la dère des dères pour Sir Elton John en France. Ce sera le 6 novembre à la Défense Arena. Alors pour assister au Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour, tenez-vous prêts, les places seront mises en vente le 30 juin à 10h.
J'en connais une qui y sera. Vous donnez à la française ou en version traduite, hein, qui l'a fait, soit un polar à mystère. Celui-ci s'appelle Mystère à Saint-Tropez. Ça se déroule en 70 et comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show business dans leur somptueuse villa tropézienne. Mais la décapotable du couple est sabotée. Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant Boulevard demande le service aux meilleurs flics de France. Le souci, c'est qu'il ne reste que le commissaire Boulin, soit Christian Clavier.
Est-ce que vous connaissez le baron Tranchant ?
Inspecteur Bourin.
Boulin.
Madame Tranchant a reçu des lettres de menaces de mort. Hier, sa Floride a été sabotée.
Allez, à nous deux, Saint-Tropez.
On dit Saint-Tropez, pas pèse.
On dit bien merguez et pas merguez.
Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte, Rossi de Palma viennent compléter le casting de Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benamou le 14 juillet sur les écrans.
Method Man, éminent membre du Wu-Tang Clan, est venu poser son flow sur l'un des titres du duo Jones Inc., soit deux frangins, Jérôme et Léon, et le fruit de leur collab s'appelle Day Ones. Day Ones par Jones Inc. et Method Man, c'est le titre du jour et on vous met la vidéo sur le compte Twitter 3615 popopop.
France Inter popopop. Antoine de Cône.
Yeah, that's me, I'm gonna do my last tour.
Elton John.
Mais oui, bravo Charline.
Et Irène Bonassina. J'ai reconnu les lunettes. Hein.
Irène Bonassina, Timothée de Fombelle, vous restez avec nous. J'ajoute une pop news car Pedro Winter, notre pop chroniqueur musical, a lui aussi une annonce de la plus haute importance à faire. Pedro, êtes-vous en ligne? M'entendez-vous?
Salut Antoine, hello Charline.
Mais bonjour.
Oui, en ligne, il nous entend. Pedro, nous venons d'apprendre la réouverture des boîtes de nuit annoncée par le président Macron pour le 9 juillet. Le président qui n'hésitera certainement pas ce jour-là à aller fouler le dance floor sur le son de son nouvel ami Justin Bieber. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant cette date, Pedro, vous allez enfiler votre blouse blanche pour une expérience unique au monde.
C'est ça, c'est une étude scientifique. Alors c'est pour ça que vous faites bien de parler de blouse blanche, puisque j'aurai ma casquette de DJ, alors je serai pas tout seul, évidemment. Mais on participe à une étude scientifique, puisqu'il est question d'essayer des choses. Il y a eu des tests à Bercy avec le groupe Indochine, avec un certain type de testing. Et là, c'est une grande première, sans masque, sans distanciation, de 23h à 6h du matin, dans des conditions réelles de boîte de nuit, de club, et des gens vaccinés.
Ouais.
Donc c'est ça la grande nouveauté. Et tout ça dans l'objectif, évidemment, c'est d'avoir des résultats et de voir si ce vaccin fonctionne pour ensuite réouvrir et faire la fête tous ensemble.
D'accord. Ça se passera où, cette opération ?
Alors, dans deux lieux, la Machine du Moulin Rouge à Paris dans le 18e et au Cabaret Sauvage, là aussi à Paris dans le 19e, avec un line-up digne d'un grand festival, puisque mené par notre dieu électronique à tous, Laurent Garnier, Étienne de Crécy, Chloé, la DJette Rony, Rag, Kiddy Smile, Bambounou et le jeune Madray.
Très bien, ben voilà. Et nous invitons évidemment toutes les pop-opiennes et pop-opiens vaccinés, je le précise, à venir participer à cette pop-expérience. Merci Pedro.
Et Antoine, je me permets, pour s'inscrire, parce qu'il faut vous inscrire sur le site internet,
revienslanuit.org. Je suis pas parti.
Revenez.
Oh, viens la nuit, d'accord. Merci Pedro. À bientôt ici en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Bon, merci, à bientôt.
Bye bye.
Pedro, dans cette émission spéciale vacances, vous êtes venu avec votre tout nouveau morceau. C'est un morceau signé de votre alias Buzzy P. Buzzy P pour Buzzy Pedro. C'est un morceau électro-disco que vous signez avec Shelia et Eshberna. Et c'est à écouter dans une piscine sur une bouée licorne, j'ai l'impression. Allez, faites-moi confiance. We'll be right back. Bon, on y est déjà hein, sur les pistes
de danse.
Vous
êtes prêts, vous, ça y est.
Oui, je suis tout en sueur. C'est le nouveau morceau de...
Et du Sud, de toute évidence.
Track of Time. Bon, vous écoutez, tous les soufflés pop, 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 l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et ce générique, c'est celui des zinzins de l'espace, et c'est ce qui vous évoque la pop culture, Irène Bonacina.
Oui, j'adore ce générique, j'adorais ce dessin animé avec les extraterrestres un peu déjantés, que je regardais ado en fait.
Ouais,
et c'est Iggy Pop qui a fait... Mais c'est 86, c'est Iggy Pop qui a fait le générique.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, sérieux.
Ouais, sérieux. C'est ça que je trouve très cool.
Vous m'avez appris quelque chose, je suis ravi. Et vous, Timothée de Fombelle, c'est ce rugissement. On n'a pas envie d'être à côté. Hein. C'est celui du lion de la MGM.
C'est ouais, simplement le spectacle qui commence. On passe, on balaie le rideau du réel.
Qu'on fait rentrer.
Et on entre. On entre dans l'imaginaire, dans les histoires. J'aurais pu mettre Mediavision. Voilà. J'aurais pu mettre les trompettes de Maurice Jarre à Avignon. Mm-hmm. C'est ce signal. Voilà.
Le spectacle commence. Très bien. Ben Irène, Timothée, le spectacle commence. Allons rugir ensemble. C'est l'heure de votre pop-list. Un livre, un film, une musique, un personnage de série. Voilà ce que j'ai dans ma petite cage. Timothée, pour le livre, vous avez choisi Écriture de Stephen King. Charline, pour une fois, ce n'est pas un livre qui fait peur, mais un livre pour apprendre à écrire. Mmh. Ça fout un peu les jetons quand même.
Je vous le confirme. Ouais. Ouais. À la fois essai et autobiographie du maître, il y délivre quelques précieux conseils pour les aspirants écrivains, tels que l'adverbe n'est pas votre ami, ou encore supprimez vos passages préférés, même lorsque cela brise votre cœur de petit scribe égocentrique, supprimez vos chouchous. Oui, ça fait peur.
Timothée, on sait que vous savez écrire et plutôt très très bien. Prouvez-nous s'il vous plaît que vous savez aussi lire.
Bon, vous voilà dans votre bureau, rideau tiré, porte fermée, téléphone débranché. Vous avez fait exploser votre télé et vous vous êtes juré d'écrire vos 1000 mots par jour, qu'il pleuve, vente ou neige. Se pose alors la grande question : de quoi allez-vous parler ? Suivi de la tout aussi grande réponse : de ce qui vous chante, de n'importe quoi, mais à une seule condition, dire la vérité. Voilà, ça c'est le credo de Stephen King. Et se dire la vérité, je me souviens quand j'ai lu ce livre, je suis pas un gros lecteur de Stephen King, je le lis sous des formes dérivées parce qu'il fait partie de ces gens qu'on met dans les tuyaux de l'entertainment pour faire des films, pour faire toutes sortes de choses. Mais ce livre-là, c'est un des rares livres. Peut-être il y a le livre de Duras, Écrire aussi, qui me... Duras, Stephen King, même combat.
Même genre.
Même genre. Ouais. Ça parle réellement de l'expérience de l'écriture. Et puis, il ne peut pas s'empêcher de nous accrocher, quoi, de nous attraper par le paletot et ne pas nous lâcher. Mm-hmm. Et tout en nous donnant un vrai manuel d'écriture. Alors, les 1000 mots par jour, j'admire, parce que je ne suis pas capable de faire ça.
C'est le mantra de Nicolas Mathieu, hein, qui nous en parlait récemment. 1000 mots par jour, quoi qu'il arrive. Bon, Irène Bonassina, nous vous avons demandé de choisir un film, mais vous n'avez pas réussi à trancher entre deux films de Buster Keaton, Les Lois de l'Hospitalité ou La Croisière du Navigateur. Bah, du coup, Charline doit nous pitcher les deux.
Aucun problème. Dans Les Lois de l'Hospitalité, Keaton et William McKay, un fils d'exilé de chef de clan, exilé de chef de clan, convoqué pour récupérer son héritage. Et dans La Croisière du Navigateur, il est Rollo Tradeway, un aristocrate feignant qui se retrouve seul à bord d'un navire à la dérive avec la roturière Betsy, alors que la demoiselle vient tout juste d'écarter une demande en mariage. Faites votre choix.
Ouais, les lois de l'hospitalité, finalement, c'est celui-là que je retiens. Ouais.
Alors, eh ben, écoutons justement la bande-annonce. Mais non, il n'y en a pas, évidemment, parce que c'est un film muet. Oh là là.
Même pas de musique. Ouais.
Mais comme vous hésitiez avec La Croisière du Navigateur, voici le trailer, comme on dit maintenant. Mais bien sûr, parce que c'est un autre film muet. Bon, est-ce qu'on vous a aidé à trancher, Irène?
Oui, c'est très bien. Oh là là, ouais, les lois de l'hospitalité, je regardais du coup, là, bon, rafraîchir la mémoire, il y a des scènes... C'est du Keaton, quoi. C'est totalement burlesque, poétique. C'est parfait, l'équilibre burlesque, poétique, absurde. Et ouais. j'aimerais, c'est une sorte d'idéal pour moi. C'est un jour d'arriver à faire un livre qui serait dans la même veine, quoi.
Ouais.
Où quand on voit les gags, c'est pas un gag, d'ailleurs, c'est beaucoup plus que ça. C'est beau et drôle en même temps. On se dit, mais c'est génial. Il y a cette scène dans Les Lois d'Hospitalité où il en habite femme et il s'enfuit à cheval et la robe se renverse sur lui, on dirait une sorte de fantôme, il ouvre son parapluie noir et ça c'est génial. C'est... Ouais. Et aussi la composition du noir et blanc, l'efficacité, ça me fait réfléchir dans mon dessin aussi. C'est pour ça que j'adore ces films.
Et puis cette impassibilité du personnage.
Oui, ce visage est magnifique. Il a un visage que j'aimerais dessiner.
Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, rien ne bouge. Quoi. Ouais. Alors que le corps,
il est
un corps de dessin animé.
Ouais.
Ah, c'est sublime. Timothée de Fombelle, je mets ma casquette car pour le personnage de série, vous avez choisi Arthur dans Peaky Blinders. Alors Charline, figurez-vous que c'est aussi mon personnage préféré.
Ça ne m'étonne pas.
Oui, comme un Didi Lambrouille, on est un peu plus radical. Rappelez-nous.
Arthur Shelby Jr., soit Paul Anderson, c'est l'aîné de la fratrie. Il est évidemment membre des Peaky Blinders, vice-président adjoint de Shelby Company Limited et c'est surtout le bras droit de son frère Tommy.
I still rest, or I'll take the whole ear off, and you're going to need your ears to listen. No more choking on Billy Kimball's boys. Right? We're the protection now. I commandeer this stolen money by order of the Peaky Blinders.
Ça fait du bien. Timothée de Fombelle. Comment un homme d'apparence aussi paisible que vous peut-il aimer un psychopathe avéré comme Arthur? Expliquez-nous ça, s'il vous plaît.
Mais parce que je lui pardonne beaucoup. Mauvais garçon, visiblement quand même un peu le raté de la famille, mais il y a quelque chose qui me touche dans ses grands bras qui vont jusqu'à ses genoux là, qui tient comme ça, et ça c'est un personnage que il me fait penser un peu à dans une autre série, Tom Sawyer, à Huck, qui est le là aussi le mauvais garçon, le copain de Tom Sawyer. Je trouve que ces personnages secondaires qui sont un peu l'ombre du héros me touchent énormément. Mais et cette voix, et l'acteur est extraordinaire. Je voudrais le pister dans d'autres films.
Méfiez-vous quand même.
Oui.
Pas trop près.
Il fait très très peur, mais il est bouleversant, il est touchant et il a une fragilité dans l'horreur qui voilà, moi me touche, surtout dans les premières saisons.
Ça fait penser au personnage dans Les Souris des Hommes aussi un peu. Là,
oui, c'est vrai.
Ça me fait penser
à
Lenny.
Ouais, c'est vrai.
Mais Irène, vous qui avez travaillé avec Timothée, vous avez découvert ce caractère double aussi.
Le côté obscur, non?
C'était presque loup-garou, quoi, qui se métamorphose la nuit venue, non? Sous ses dehors tout paisible.
Ouais. Je suis le mauvais Shelby. Enfin, il y en a aucun de bon, vraiment.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas un qui rattrape les autres. Bon. Irène, terminons cette pop list avec la chanson que vous avez choisie. Et cette chanson, c'est celle-ci. Stars, when you shine, you know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. Feeling Good de Nina Simone, c'est une feel good song.
C'est une
chanson qui vous aide à
exactement.
Vous sentir
bien. Et même si je la connais par cœur, ça fait toujours le même effet. Ça. Mais en mouvement, ça donne de l'élan et un peu la chair de poule aussi. La voix de Nina Simone, elle est hyper puissante.
Quel effet vous fait cette voix quand vous l'écoutez comme ça?
La première fois que j'ai entendu, j'étais pas habituée à une voix comme ça. Je la trouvais pas forcément belle, j'avoue. Et en fait, elle est très forte et bourrée d'émotions. Et justement, elle n'est pas dans la séduction, dans les canons. Donc voilà, c'est ça qui me touche.
Je suis certain, Timothée de Fombelle, comme je vous ai découvert quand même assez double, d'un seul coup, là, je suis sûr que si je vous avais posé la question, vous m'auriez cité un groupe de death metal.
Oui, exactement. Non, j'aurais tout cassé la salle. Là.
Ouais. Se méfier de l'eau qui dort. Bon. Alors, je résume. Stephen King, Buster Keaton, Arthur de Peaky Blinders et Nina Simone. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
It's a new life for me. And I'm feeling good.
Se pose alors la grande question. De quoi allez-vous parler?
Mais comment il fait ça? On était en direct. On était en direct.
Mais c'est un magicien.
C'est
Ghislain Canal de Suez. Mon coucou est cassé. Fontanus. Notre réalisateur, regardez, il nous regarde. Il est tout content. Dès qu'il y a... Mais oui, merci. Il dit même merci. Oui. Dès qu'il y a des compliments, il est
preneur.
Il sent plus de joie. Ça ne lui arrive pas tous les jours. Bien. Et bien, retournons le temps d'un morceau dans l'univers de Nina Simone. Le temps d'écouter In Extenso, ce morceau que vous aimez tant et que nous aimons tant. Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine. It's a new day, it's a new life for me.
Simone, la voix envoûtante de Nina Simone. Et c'était ce morceau Feeling Good sur France Inter. C'est un morceau choisi par Irène Bonassina, venue parler de pop culture dans Pop 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 avec Timothée de Fombelle. Bah, je parlais de voix envoûtante. Je vais m'en servir pour vous poser la dernière question de l'émission. C'est quoi pour vous la pop culture?
Ah, je suis envoûtée.
Vas-y, Timothée. Alors,
bah, c'est la culture qui sort de sa boîte simplement et qui vient dans la cour de récré, dans le sac à dos, dans la rue, dans le casque du Walkman. Voilà, c'est ça. Je suis passé devant la Tour Eiffel et elle bondissait comme un pop-up là et je me suis dit c'est tout à l'heure là en marchant pour venir vous voir et je me suis dit c'est la pop culture.
Et vous, Irène?
Alors moi j'ai une image de du clip de Gainsbourg et Brigitte Bardot là. Road trip, non,
comme explique.
Comme explique, merci. Et je vois donc
une grosse.
Ouais, voilà. Ah ouais. Et une grosse bulle de chewing-gum rose qui éclate. Paf, quoi.
Très bien, très bien. Merci Irène Bonassina, merci Timothée de Fombelle. Esther Andersen, votre album est plus que recommandé, vous l'aurez compris par Pop Pop Pop. Il est édité chez Gallimard Jeunesse. Merci d'être venu aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Et merci Charline.
Merci à tous.
Et merci à toute l'équipe de Pop Pop et à Pop 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 et à Guillaume Roux, l'oncle, je crois, de Charline, qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission. Compositeur Tilassine et le comédien Anthony Bajon viennent nous rendre visite. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.